quelques mots, sans nous attarder sur l'importance d'Abraham. Dans le petit résumé qui figure dans le livret de présentation des différents cours d'été, vous avez sans doute remarqué que je souligne notamment que Moïse, rédacteur inspiré de ces textes, notamment de la Genèse, ne consacre que 11 chapitres à tout ce qui s'est passé avant Abraham, mais qu'ensuite il en consacre 13, presque entièrement à la vie du patriarche. Il y a déjà là une indication de l'importance du personnage pour le lecteur des Écritures. Soulignons secondement que Abraham est bien sûr l'ancêtre des Hébreux, père de la nation juive, du peuple élu. C'est de sa lignée que naîtra 2000 ans plus tard le Christ, sauveur des hommes, et vous le savez, il est d'ailleurs le père commun d'Israël et des Arabes. Troisième constatation, Abraham est un des trois personnages de l'Ancien Testament les plus fréquemment cités dans le Nouveau Testament. En commençant par Moïse qui est cité 80 fois, Abraham 72 fois, David 59 fois. Toujours dans cette argumentation rapide destinée à mettre le personnage en relief dans les Écritures, lorsque Jésus a voulu souligner sa préexistence, c'est Abraham qu'il a pris comme point de repère dans ce verset de Jean 8, 58, « Avant qu'Abraham fût, je suis, moi je suis », littéralement, « Avant qu'Abraham vienne à l'existence, moi je suis ». Il y a d'ailleurs une formulation en grec qui ramène au livre de l'Exode et à donc la divinité absolue, la déité de Jésus-Christ, mais nous n'allons pas nous attarder. Cinquième argument, Jésus a également fait d'Abraham le témoin de sa venue dans le monde, comme sauveur des hommes. Jean 8, 56, vous voyez que c'est dans le même cadre, du même chapitre. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Bien sûr qu'il y a une part de mystère dans l'interprétation de ce verset, parce que on peut penser que c'est à travers l'intervention divine et le bélier retenu dans un buisson de Genèse 22 qui annonçait le sacrifice de Jésus-Christ, ou d'autres passages du cours de la vie d'Abraham que Abraham a pu voir ou entrevoir le jour de Jésus-Christ et se réjouir. Nous ne pouvons pas appliquer à un passage particulier ce commentaire de Jésus sur la vie de ce remarquable serviteur de Dieu. Sixièmement, et là je vais à l'enseignement de Jésus sur l'au-delà, enseignement partiel mais très intéressant dans ce récit du riche et du pauvre Lazare. Vous savez qu'il est question, verset 22, du sein d'Abraham, dans lequel le pauvre est transporté, n'est-ce pas, par les anges, le sein d'Abraham. Et selon les Juifs, Abraham occupait la place la plus élevée dans la félicité céleste. Être avec Abraham ou dans son sein représentait l'état de gloire la plus parfaite, le ciel, le bonheur et la sécurité éternelle. Et c'est Abraham là encore qui est pris comme point de repère pour la félicité céleste. Et puis ensuite, en allant plus loin encore, septième argument, Dieu dans sa parole insiste beaucoup sur la foi d'Abraham. Nous avons un texte magnifique dans une prière de Néhémie 9, versets 7 et 8. Je vous donne le texte dans sa totalité. Je pense que nous y reviendrons en cours de semaine. Néhémie 9, versets 7 et 8. C'est toi, éternel Dieu, qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Uran Chaldée, qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui, et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Girgasiens, et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi. Et là encore, il faut faire un petit peu d'explication de mots. Il se trouve que, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, les termes foi et fidélité sont quasi indissociables, étroitement imbriqués l'un dans l'autre, au point d'ailleurs que dans le Nouveau Testament, dans ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, qui est une sorte de miniature ramassée de la beauté du caractère de Jésus-Christ, c'est un texte magnifique. Dans Galates 5, 22, nous avons le terme grec pistis, qui peut être rendu soit par foi, soit par fidélité. Vous allez d'une version à l'autre et vous tomberez tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre de ces deux mots, parfois même avec une note en bas de page qui le précise, tout simplement parce que la foi, c'est cette démarche qui saisit, n'est-ce pas, qui va vers l'autre, la foi qui saisit, qui va vers l'autre, qui, nous allons le voir, qui a tout un mouvement en direction de l'autre, qui s'appuie sur l'autre, mais qui est objective, n'est-ce pas, qui va vers l'autre, alors que la fidélité, c'est la confiance que l'on inspire, c'est-à-dire la foi qui donne. La confiance et la fidélité vont de pair dans la marche avec Dieu. Et puis nous arrivons toujours dans le cadre de la foi d'Abraham à ce chapitre 4 de cette cathédrale de la foi chrétienne qu'est l'Épître aux Romains. Dans Romains 4, l'apôtre Paul va chercher dans l'Ancien Testament des illustrations très concrètes de ce que l'on appelle dans les Écritures la justification par la foi. Qu'est-ce qu'être justifié par la foi? Vous savez que c'est un des grands thèmes de la première partie de l'Épître aux Romains, qui a posé pas mal de problèmes à un certain Martin Luther, parce qu'il comprenait très très mal cette expression « être justifié ». Il pensait qu'il fallait donc être absolument impeccable pour être juste dans le sens le plus absolu du terme pour pouvoir être agréé de Dieu, ce qui le plongeait dans des dépressions absolument épouvantables qui lui ont valu d'être retrouvé dans sa cellule de moine, parfois dans un état absolument dramatique, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que ses yeux s'ouvrent par le travail du Saint-Esprit dans son cœur, et qu'il découvre que Dieu justifie, oui, il acquitte, il innocente, il considère comme juste, il déclare juste. C'est une déclaration juridique en quelque sorte, qui repose sur l'acte salvateur unique dans l'histoire de l'humanité. Tout cela tourne autour de la croix de Jésus-Christ. Sur la croix, Jésus-Christ se revêt de la totalité de mon péché et maudit à cause de mon péché, et à cause de la croix, je suis déclaré juste, je suis acquitté, je suis innocenté, parce que revêtu de la justice parfaite de Jésus-Christ, considéré comme juste, vu par Dieu comme étant parfaitement juste, dans la mesure où Dieu peut me voir en quelque sorte à travers la beauté de son Fils Jésus-Christ mort pour moi sur la croix. Et donc dans Romains 4, vous avez deux personnages de l'Ancien Testament qui sont mis en évidence pour montrer que ce n'est pas une invention subite d'une élucubration d'un illuminé Paul. Non, pas du tout. Tout cela va puiser son origine déjà dans le message de l'Ancienne Alliance, dans la vie de David. Il y en a un petit extrait dans ce Romains 4, et puis essentiellement dans l'histoire d'Abraham. La presque totalité de Romains 4 est consacrée à Abraham dans ce domaine. Et puis, Hébreux 11, nous avons évoqué il y a un instant dans notre première lecture, Hébreux 11 et 12, dans les 40 versets d'Hébreux 11, j'en relève 8 qui sont consacrés uniquement à Abraham et à Sarah. C'est-à-dire que les 80%, ou les 20%, pardon, d'Hébreux 11 sont consacrés au couple Abraham et Sarah dans cette galerie de portraits d'hommes et de femmes de foi. Toujours dans le domaine de la foi, Jacques chapitre 2, 20-23, qui a aussi donné de l'urticaire à notre ami Martin Luther, qui était tellement marqué par tout son passé, par son environnement, par sa justification par la foi, qu'il avait vraiment de la peine à avaler ce message particulier de cet épître de Jacques concernant les œuvres de la foi. Il l'a donc appelé une épître de paille. Il n'en voulait pas, cette épître, parce qu'il l'opposait notamment à l'épître aux Romains, alors que ce sont deux épîtres tout simplement complémentaires dans ce beau message. Jacques 2, 20, 23, je ne lis pas ce texte maintenant, avec cette indication dans Jacques 2, 20, 23, qui n'est pas sans intérêt. Jacques, inspiré par le Saint-Esprit, appelant Abraham l'ami de Dieu, l'ami de Dieu. Et il va là aussi puiser dans l'Ancien Testament, puisque, et dans 2 Chroniques 20, verset 7, et Ésaïe 41, verset 8, Abraham, donc à trois reprises dans l'ensemble des Écritures, est appelé l'ami de Dieu. Et là, il y a comme un écho à un autre personnage des Écritures qui est appelé, lui, le bien-aimé de l'Éternel. C'est notre ami Daniel, n'est-ce pas, dans le livre de Daniel. Trois fois bien-aimé de l'Éternel. Et puis ici, nous avons Abraham qui est appelé l'ami de Dieu. Et il est intéressant de savoir que la ville d'Hébron, où Abraham a vécu non loin de là et où il a été enterré, a été appelé par les Arabes d'un nom arabe qui précisément signifie « ami de Dieu ». Et que le terme Hébron lui-même vient d'une racine qui exprime la notion de liaison, d'union, de ligue, d'amitié. Vous voyez l'importance de cette dimension d'amitié particulière qui existait dans la relation entre l'Éternel et son serviteur Abraham. Voilà donc un certain nombre d'arguments. Je suis persuadé que vous êtes des convaincus de l'importance d'Abraham dans les Écritures, mais nous ne sommes pas seulement appelés à recevoir pour nous-mêmes l'enseignement des Écritures, nous sommes appelés à le communiquer plus loin. Donc, vous avez là quelques éléments au parcouru ventre à terre, n'est-ce pas, mais qui nous montrent l'importance du personnage dans les Écritures. En conclusion à cela, nous tenons à souligner, et nous aurons l'occasion de nous en apercevoir, que l'histoire d'Abraham n'est pas l'histoire exceptionnelle d'un être exceptionnel. D'ailleurs, il n'y a pas dans les Écritures, en dehors de l'histoire, de ce que nous savons de Jésus-Christ, il n'y a pas d'histoire d'être exceptionnel. Et c'est ce qui fait de la parole de Dieu un livre particulièrement apprécié, encourageant. Nous voyons, ça c'est un de mes thèmes favoris, nous voyons des hommes et des femmes qui, c'est vrai, ont marqué l'histoire de leur empreinte, mais qui n'étaient pas des géants. Ils savaient que dans leur fragilité, Ils avaient affaire au Dieu de l'impossible. Ils étaient les petits serviteurs d'un grand Dieu et non les grands serviteurs d'un petit Dieu, n'est-ce pas? Alors disons-le, l'histoire d'Abraham n'est pas l'histoire exceptionnelle d'un être exceptionnel. Ce qu'elle a de particulier, cette histoire d'Abraham, c'est que nous sommes en présence dans ces chapitres de la première description détaillée de la marche par la foi dans la Bible. Alors vous me direz, oui, mais il y a déjà eu auparavant un certain Enoch, un certain Noé, d'autres personnages dont la foi est mise en évidence dans d'autres passages de la Bible. Mais ces personnages sont mis en évidence dans un aspect partiel de la foi en action. Alors que la particularité chez Abraham, c'est de présenter vraiment la vie, la marche quotidienne, par la foi, dans sa beauté, dans l'arc-en-ciel de ses richesses. La foi en action, ce ne sont pas des théories, ce ne sont pas des vérités abstraites, ce n'est pas un credo cérébral, intellectuel, ce sont des réalités concrètes de la vie de tous les jours, étalées sur de longues années. Et c'est ce qui fait de la biographie d'Abraham une biographie particulièrement intéressante. On retrouvera cette dimension aussi quelque peu chez David, chez Daniel. Ce sont des personnages que l'on peut examiner sur une durée suffisante de temps pour voir se dégager des principes fondamentaux de conduite de l'homme, de la femme de Dieu, du disciple de Jésus-Christ. Et il est donc important d'y passer du temps. Lisons et relisons et méditons et étudions, je vous y encourage de tout mon cœur, ces biographies bibliques. Passons du temps aussi dans l'Ancien Testament, parce que c'est le livre, entre autres, des biographies des hommes et des femmes de Dieu qui nous permettent de nous identifier, de nous reconnaître. Nous avons le miroir de nos vies, nous avons des stimulants. Il y a là tout un message et il vaut la peine dès l'aube de la vie chrétienne. Si vous conduisez quelqu'un à Jésus-Christ, encouragez-le très tôt, d'une part à passer beaucoup de temps dans les Écritures, à lire et à relire continuellement le Nouveau Testament, et puis à plonger directement aussi dans l'Ancien Testament, en particulier en privilégiant dans un premier temps ces biographies bibliques dans lesquelles il va pouvoir commencer à se retrouver et à être stimulé pour pouvoir aller de l'avant. Cela, nous allons le réaliser ensemble d'ici vendredi. Nous avons donc dans la vie d'Abraham la foi avec des défaites et des victoires, des réussites et des échecs, des défaillances, des combats. L'histoire d'Abraham est pleine d'un réalisme saisissant qui à la fois nous remet les pieds nettement sur la terre, et parfois nous en avons besoin, tout en nous faisant vivre des réalités célestes extraordinaires. Nous avons la possibilité de comprendre le cheminement de la foi, de sa naissance à son plein épanouissement. C'est donc un parcours accidenté, jalonné d'au moins 7 tests de la foi. Vous lirez des commentateurs qui vous diront 10. Personnellement, ma lecture me conduit à retenir 7 tests essentiels de la foi, dont certains furent d'une difficulté exceptionnelle. Et il nous vient immédiatement à l'esprit le 7e test, celui de Genèse 22, n'est-ce pas, avec l'offrande d'Isaac. Dans ce sens, puisque nous parlons de difficultés exceptionnelles, Abraham peut aussi être considéré comme une sorte de prototype dans le domaine de la foi. Et vous savez que très souvent, les prototypes d'un modèle doivent subir des tests beaucoup plus difficiles que n'en auront jamais à subir les modèles de série. Cela ne veut pas dire que dans l'histoire du peuple de Dieu, de l'ancienne alliance et dans l'histoire de l'Église de Jésus-Christ jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu dans la vie d'hommes et de femmes de foi des épreuves aussi intenses que celles que Abraham a connues dans Genèse 22. Quand on connaît un petit peu l'histoire de l'Église, l'histoire missionnaire, on se rend compte que certains hommes, certaines femmes de Dieu ont été placés dans des situations absolument terrifiantes, n'est-ce pas ? Et pas toujours avec une issue très glorieuse comme certains l'entendent. Il suffit de lire les derniers versets d'Hébreux 11 pour évoquer non pas le triomphe, le succès, les grandes victoires de la foi, mais le dénuement de la foi, la faim et la soif, l'abandon, la persécution, des difficultés terribles, la mort dans des circonstances absolument tragiques. Mais je bénis Dieu de ce que ces personnages anonymes soient évoqués dans ces derniers versets, parce qu'ils remettent aussi les pendules à l'heure face à un évangile de prospérité qui n'est qu'un faux évangile, à un évangile des victoires continuelles. Vous savez ce que je veux dire, nos librairies évangéliques parfois, pour certaines d'entre elles en tout cas, contiennent trop de livres qui vont dans cette direction. Un auteur écrit « Abraham a prouvé aux générations suivantes que la vie par la foi est efficace. Dieu est fidèle pour mener à bonne fin l'œuvre qu'il a commencée dans la vie de celui qui répond à son appel. » Je suis persuadé, écrit l'apôtre Paul dans Philippiens 1:6, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Juste deux mots quant au plan général de ces sept tests de la foi. Genèse chapitre 12, la naissance de la foi, qui va nous intéresser là immédiatement après cette introduction, plus le test numéro 1 dans l'éducation de la foi. Alors là, nous allons nous y arrêter parce que c'est un test très important qu'on retrouve généralement, c'est vrai, dans les premiers temps de la vie de la foi, mais qui se reproduit aussi au long de notre marche chrétienne. Test très important de Genèse 12. Genèse 13, ce que j'ai appelé le climat de la foi, le test numéro 2, la foi, l'espérance et l'amour. Test numéro 3 en Genèse 14, le combat et l'apparente folie de la foi, test numéro 3 et numéro 4. Puis Genèse 15 et 17, je dis bien Genèse 15 et 17, le contrat de la foi, avec tout d'abord la signature du Dieu fidèle au chapitre 15, dans un événement qui a été très difficile dans un premier temps à vivre pour Abraham, et puis au chapitre 17, la signature du croyant dans la circoncision d'Abraham lui-même. Genèse 16, placé entre les deux, c'est intéressant, l'impatience de l'incrédulité, là, il y aurait beaucoup à dire, test numéro 5, l'impatience de l'incrédulité. Et puis Genèse 18 et 19, le jugement de Dieu et la foi. Nous pourrions en termes néo-testamentaires évoquer le retour de Christ et la foi, la fin des temps et la foi. Parce qu'il y a à travers ces textes bouleversants de Genèse 18 et 19 tout un enseignement qui va être repris dans le Nouveau Testament. Et puis enfin, nous l'avons dit, Genèse 22, l'épreuve suprême et la récompense de la foi, le test numéro 7. Alors bien sûr, si nous avions passé deux semaines ensemble, nous aurions pu aller à pas lents à travers chacun de ces chapitres, comme je l'ai fait en d'autres lieux, mais nous sommes limités dans le temps, alors nous allons nous arrêter sur Genèse 12, bien entendu, sans doute Genèse 13, qui est très très important et très en contraste sur le premier test d'ailleurs, le climat de la foi, l'espérance et l'amour, un texte très encourageant mais qui nous interpelle dans le cadre de nos relations en particulier. Nous verrons si nous pouvons aborder Genèse 22, l'épreuve suprême et la récompense de la foi, je n'en suis pas certain, mais nous associerons certainement Genèse 13 et Genèse 18 et 19, parce qu'il y a là tout un ensemble très intéressant, surtout dans les temps que nous vivons. Lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi ? Grande question, et je trouve personnellement question que nous pouvons de mieux en mieux comprendre dans les temps que nous vivons. Pendant assez longtemps, ce questionnement volontaire destiné à faire réfléchir de Jésus dans cette parabole était pour moi très énigmatique. Je dis, mais comment est-ce possible ? Et puis, les années passent, le monde évolue, ou plutôt régresse, et nous découvrons, hélas, y compris dans l'Église de Jésus-Christ, de terribles défaillances et de graves problèmes en ce qui concerne ce domaine de la foi. D'où l'importance, je le redis et je plaide, de nous arrêter d'une manière toute particulière sur ces questions. Voilà donc une introduction qui aurait pu être plus longue, mais j'ai essayé d'être rapide. J'espère que vous avez pu suivre tout cela. Alors nous devons aborder cette question des caractéristiques fondamentales de la foi telles qu'elles apparaissent dès le début de l'histoire d'Abraham. Il y a tout un message sur ces caractéristiques fondamentales qui est en germe déjà dans Genèse 12. Nous ne les verrons pas toutes, parce que nous prendrions trop de temps, mais vous les retrouverez notamment dans le document qui sera photocopié en 4 pages pour ceux et celles d'entre vous qui en auront exprimé la demande, mais nous n'en parlons pas maintenant spécialement vers la fin de notre temps de cours jeudi. Nous verrons qui désire tout cela. Caractéristique fondamentale de la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Et c'est le fameux écrivain connu pour ses énormes pavés, guerre, épée et autres, qui, Léon Tolstoï, qui a écrit ces lignes. Si un homme n'a pas la foi, il est dans la situation la plus dangereuse qui puisse se trouver au monde. Encore faut-il savoir ce qu'est la foi. Et si je le dis de cette manière, c'est parce que le même Léon Tolstoï, à l'âge de 9 ans, parce qu'il était convaincu que Dieu l'aiderait à voler avec deux ailes, a plongé la tête la première d'une fenêtre d'un 3e étage et a connu sa première crise de déception envers Dieu. Il a pensé que la foi, c'était ça. Heureusement, il en est sorti, atterrissage catastrophique, et des années plus tard, il riait de cette puérile mise à l'épreuve de sa foi. Le juste vivra par la foi. Passage tout d'abord de l'Ancien Testament. Il faut toujours s'en souvenir. Et le lire d'abord dans le prophète Habacuc, ou Habacuc, celui qui était contre les wagons-lits. Autrefois, on avait des wagons-lits Cook, n'est-ce pas ? Alors, c'est le prophète qui était contre les wagons-lits. Habacuc. Habacuc. Magnifique prophète. D'une intégrité, d'une transparence, d'une droiture, vivant en période difficile. À la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, qui a certainement prophétisé dans les années 609-608, à peu près à cette époque-là, donc dans une période de terrible déclin de ce petit royaume de Juda en pleine décadence, en pleine corruption, et qui a exprimé dans la présence de Dieu toutes ses questions, toute son indignation, ne fût-ce qu'à cause de l'apparente passivité de Dieu qui semblait ne pas vouloir broncher devant l'incrédulité et la corruption du peuple, de son peuple en Juda. Et c'est dans ce cadre qu'à un moment donné, parce que la réponse donnée par Dieu, parce que Dieu a donné une réponse aux interrogations de son serviteur, parce que cette réponse lui paraissait totalement insatisfaisante, comment se pouvait-il que face à l'impiété caractérisée extrêmement grave de Juda, ce soient les Chaldéens, les Babyloniens qui soient utilisés par Dieu pour régler les comptes au peuple de Juda, ce peuple idolâtre jusqu'au bout des ongles, ce peuple qui érigeait la violence, la corruption et l'idolâtrie en superpuissance, n'est-ce pas? Comment était-il possible que le peuple pécheur qui était Juda soit châtié par un peuple plus pécheur que lui? C'était quelque chose d'incompréhensible. Et c'est ainsi que finalement, parce que Habacuc n'était pas simplement un homme qui posait des questions, mais il attendait aussi les réponses. Il guettait les réponses de Dieu. Dieu lui a donné une réponse. Et dans cette réponse, l'élément dominant, l'élément moteur, c'était précisément cette phrase très lapidaire, « Le juste vivra par la foi. » Le juste vivra par la foi. Le jugement vient. Mais ceux que j'utiliserai comme verge de ma colère, c'est-à-dire les Babyloniens, eux-mêmes seront jugés à leur tour. Mais j'ai des comptes à régler avec mon peuple. Et alors il y a là toute... on se demande comment ça s'est passé, mais Habacuc a vécu en quelque sorte l'approche de Dieu, en quelque sorte descendant du ciel pour venir châtier son peuple. Il a été absolument bouleversé devant cette avancée, cette approche du Dieu juge, après avoir averti pendant des centaines et des centaines d'années, du matin au soir, notamment en dernier lieu par le message absolument éloquent et bouleversant de ce courageux prophète Jérémie, qui était encore en train de travailler dans ce sens, n'est-ce pas? Il va être absolument bouleversé. Il a besoin de ce message, le juste vivra par sa foi. Et il va terminer cette petite lettre de manière absolument extraordinaire dans l'exaltation de la confiance dans cette situation qui est tellement sombre, l'horizon est tellement sombre, mais toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, il me place sur mes lieux élevés. Oh, la conclusion est extraordinaire. Vous savez, la lettre du prophète Habacuc, c'est une lettre pour notre temps comme jamais, n'est-ce pas? Mais je vous rappelle, cette petite phrase de Habacuc 2,4, le juste vivra par la foi, que nous allons retrouver à trois reprises dans le Nouveau Testament. À trois reprises. Et selon ce que je comprends des Écritures, chaque fois avec une indication différente dans chacun des trois passages. Vous avez le texte de l'Ancien Testament, puis donc repris dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er, verset 17, avec l'insistance sur le mot « le juste », ce qui posait des problèmes à notre ami Martin Luther. La justice de Dieu, la justice de Dieu, le juste. Qu'est-ce que le juste? Ça, c'est le grand message du début de l'Épître aux Romains, une humanité complètement condamnée, gens religieux, gens athées, quels qu'ils soient, tous condamnés, mais qui peuvent être justifiés, acquittés. Parce qu'un événement sans précédent, extraordinaire, unique dans l'histoire, a eu lieu en dehors des murs de Jérusalem, sur une colline, lorsqu'une croix s'est dressée entre deux autres croix. Le juste. Et puis, dans l'épître aux Galates, au chapitre 3, verset 11, vous avez à nouveau le juste vivra par la foi, mais avec, semble-t-il, une insistance sur l'expression la foi. Ce n'est plus le mot juste qui est commenté, interprété, mis en évidence, c'est le mot foi. Parce qu'il y avait dans cette, on dirait, dans cette union d'églises de Galatie, ces églises, un grave problème de retour en arrière qui vraiment remettait complètement en cause l'évangile dans son essence, dans sa nature. Et c'était quelque chose d'une extrême gravité qui fait que d'emblée, l'apôtre Paul, sans du tout rendre grâce en quoi que ce soit pour ces églises de Galatie, immédiatement, donne ce message solennel qui sonne un coup de clairon terrible, n'est-ce pas, qu'il soit anathème, celui qui annonce un autre évangile que celui de Jésus-Christ. Et donc, l'évangile reçu par la foi et non gagné par des mérites liés à l'accomplissement de la loi, même avec le secours de Dieu, n'est-ce pas ? Puis troisième texte, Hébreux chapitre 10, verset 38, « Le juste vivra par la foi », mais maintenant, un éclairage sur le troisième mot, c'est-à-dire sur le mot « vivra ». Voyez, le Nouveau Testament, d'après ce que je comprends, a repris la parole donnée par Dieu à Habacuc pour en éclairer les trois éléments, l'un dans l'épître aux Romains, le second dans l'épître aux Galates et le troisième dans l'épître aux Hébreux. Donc là encore, nous avons une preuve supplémentaire de ce fait que nous sommes en face d'un sujet absolument capital. Première caractéristique fondamentale. La foi est suscitée par le Dieu qui parle de manière personnelle. Nous portons les regards sur Genèse 12, verset 1er, qui vraiment, après avoir situé Abraham et Sarah dans leur contexte familial, généalogique, nous sommes maintenant vraiment au début de l'histoire connue d'Abraham. Et l'histoire connue d'Abraham commence par un mot, l'Éternel. Ça commence comme ça. Ça ne commence pas par Abraham, ça commence par l'Éternel. Et cela souligne si fortement que la foi est consécutive d'une initiative divine. C'est Dieu qui prend l'initiative. Et d'ailleurs, il est présenté ici comme l'Éternel. Il n'est pas dit « Dieu dit à Abraham », mais « l'Éternel dit à Abraham ». C'est-à-dire qu'il y a là déjà, très tôt dans les Écritures, tout comme dans Genèse 2 d'ailleurs, par contraste avec Genèse chapitre 1, vous avez Dieu, hein, le Dieu très haut, le Dieu créateur dans Genèse 1, et puis l'éternel Dieu dans chapitre 2, récit simplement complémentaire parce que centré davantage sur l'homme, dans la relation que Dieu veut avoir avec sa créature, avec l'homme, c'est le Dieu de l'Alliance, c'est le Dieu qui veut s'occuper de cet homme qu'il a mis sur la terre, qui veut l'entourer, qui veut l'accompagner, qui veut être son « je suis », « moi je suis tout ce dont tu as besoin », c'est lui qui est là, l'Éternel. Et la suite de l'histoire d'Abraham nous montre que l'expression « l'Éternel » n'était pas du tout inconnue dans la pensée d'Abraham, même si c'est dans le début du livre de l'Exode que la signification nous est donnée dans l'histoire du buisson ardent. La révélation progressive de Dieu sous ses différentes qualités, sous ses différents aspects, ou ce qu'il veut en révéler, au fil de la progression de la marche d'Abraham dans sa foi. Et là, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la manière dont Dieu veut se révéler à chacun d'entre nous. La beauté de ces titres divins, de ces noms divins, avec en particulier ce nom fondamental que j'évoque dans un de mes livres sur un ou deux chapitres, l'Éternel. L'Éternel. Alors, pour enfoncer le clou, faut-il souligner, par exemple, Josué 24, verset 3. Oui, Josué 24, verset 3, dans le dernier discours de Josué au peuple d'Israël, à Sichem, il est dit au verset 3, « je prie votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. » Nous reviendrons sur ce passage, mais je souligne simplement ce début du verset 3, « je prie votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, je le prie. » À un moment donné, Dieu nous prend. Comme à un moment donné, Dieu a pris un certain Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Ce n'est pas nous qui prenons Dieu, c'est Dieu qui nous prend. Et c'est important la différence. C'est Dieu qui nous prend. Autre passage, Néhémie 9, 7, nous l'avons lu, c'est toi, Éternel Dieu, qui a choisi Abraham. C'est toi, Éternel Dieu, qui a choisi Abraham. Et puis au début du message d'Étienne, dans Actes 7, versets 2 et 3, texte aussi sur lequel nous reviendrons, Étienne répond au souverain sacrificateur, homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit, le Dieu de gloire, ça commence par là. Même Étienne a eu cette intelligence spirituelle de commencer par le bon bout. C'est Dieu qui apparut. Il y a comme ça un certain nombre de textes dans les Écritures qui insistent fortement sur cette initiative divine. Oh, nous aurions pu prendre une ou deux études pour travailler toute cette question de l'appel de Dieu, du choix de Dieu pour notre salut. Parce que c'est un thème qui est dans les Écritures. Il est incontournable. Mais il a fait couler beaucoup d'encre. Il a divisé tant et tant de croyants et d'églises. Alors qu'il faut simplement l'accepter parce qu'il est dans les Écritures en toutes lettres avec des précisions absolument bouleversantes quand il est question du choix d'Israël. N'est-ce pas ? Je ne vous ai pas choisi parce que vous étiez les plus grands, parce que vous étiez les meilleurs et que sais-je encore. Je ne vous ai pas choisi pour toutes vos vertus. Je vous ai choisi parce que je vous aime. Je bénis Dieu de ce qu'un jour il m'ait appelé, de ce qu'un jour il m'ait choisi. C'est un mystère. Parce qu'il m'aime. Et cela ne va absolument pas m'empêcher d'évangéliser, de partager ma foi. Les deux vérités sont dans les Écritures. Dieu veut que tous les hommes, son désir le plus profond, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais il y a aussi le choix. Et parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés, mon mandat est celui de partager ma foi. Mais en même temps de réaliser le bonheur indicible de ce que Dieu, dans sa souveraineté absolue, dans sa grâce parfaite, par pur amour, sans une once de mérite de ma part, parce qu'au contraire j'ai démérité, il a jeté les regards sur moi, il m'a choisi, il m'a appelé. C'est bouleversant. Et nous chanterons dans l'éternité à venir un cantique de louange parce que nous serons là-haut aussi, parce qu'un jour, dans sa grâce absolue, Dieu s'est approché de nous et nous a choisis. Ça, c'est le début de l'histoire d'Abraham. C'est par là que ça commence. Alors commençons par là, n'est-ce pas ? Mais à côté de ce mot, l'Éternel, nous avons un second mot. L'Éternel dit à Abraham. Ou avait dit à Abraham, mais nous y reviendrons. Là, j'anticipe, mais je n'explique pas. L'Éternel dit à Abraham. Autre élément, toujours dans cette première caractéristique fondamentale de la foi, la naissance de la foi est liée à une parole d'un Dieu vivant qui s'adresse à moi personnellement. La foi est donc, et la naissance de la foi est donc une réponse à un appel précis de Dieu. C'est parce que Dieu a parlé et parce qu'il continue à parler par sa parole, par les Écritures, que à un moment donné, la foi vient à l'enfantement, ce qui est dit si bien dans Romains 10, 14 à 17. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et là, c'est intéressant, on ne peut pas toujours faire la distinction, vous avez le mot logos pour la parole, mais qui est un mot très général, qui englobe la pensée, la parole et l'activité, aussi bien dans l'Ancien Testament, avec le mot équivalent de l'Ancien Testament, que dans le Nouveau Testament. C'est un mot essentiel, un mot clé qui introduit d'ailleurs l'Évangile selon Jean. Et puis vous avez un second mot, la parole en tant que message communiqué, mais toujours à partir des Écritures. Et c'est ce mot-là qui est utilisé dans Romains 10, 14 à 17. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de la parole prêchée, de la parole annoncée, de la parole parlée, du message, bien entendu, dans la mesure où ce message est conforme et dans la droite ligne, s'inspire totalement des Écritures, il peut être dit parfois de manière un petit peu différente, mais il ne doit jamais trahir le sens fondamental que Dieu a donné à ces mots dans sa parole. La naissance de la foi est liée à une parole d'un Dieu vivant qui s'adresse à moi personnellement. C'est important ce que nous disons là, et il faudra avoir du temps, mais disons simplement que la foi n'est pas une sorte de coup de foudre, donc, qui tomberait tout droit d'un ciel bleu, de manière mystérieuse et imprévisible, qui atteindrait les uns, qui ignorerait les autres. Il a la foi, moi je ne l'ai pas, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça. Ce texte s'inscrit déjà lui-même en faux. Nous pouvons d'ailleurs y ajouter que nous avons tous une foi, vous et moi, même si quelqu'un n'est pas encore en Christ ici, nous avons tous une foi que certains appellent naturel, le terme peut être problématique, mais une foi don de Dieu. En fait, la foi est un double don de Dieu, ou c'est un don de Dieu dans deux de ses dimensions. Et il y a une foi générale qui concerne l'humanité tout entière, et sans laquelle, eh bien, nul de nous ne pourrait vivre une vie tant soit peu équilibrée sur la terre. Vous êtes assis sur une chaise, même si vous n'êtes pas converti à Jésus-Christ, c'est parce que vous faites confiance au siège sur lequel vous êtes assis. Et vous savez qu'en permanence, du matin au soir et pendant la nuit, nous faisons appel à ce cadeau de Dieu lorsqu'il nous a créés. Et vous savez que quand cette foi-là est en défaillance, quand on commence à ne plus avoir confiance, par exemple, dans la nourriture qu'on absorbe, quand on voit des microbes partout, par exemple, n'est-ce pas? Eh bien, on aboutit dans un centre psychothérapique et on a besoin de soins. Donc, il existe ce cadeau de Dieu, foi nécessaire pour notre vie ici-bas, dans nos relations avec les personnes, avec les choses, etc. Beau cadeau de Dieu. Mais cette foi doit rester relative. Je parlais des chaises sur lesquelles nous sommes assis, je me souviens, aux Antilles, m'être un jour écroulé sur ma chaise alors que j'étais en cours d'entretien avec quelqu'un. La chaise a craqué et je me suis retrouvé même dans une situation particulièrement désagréable parce que j'étais emprisonné à l'intérieur du... Alors on a dû me tirer de là, j'étais pas très fier, mais enfin... Vous savez, les termites font bien des dégâts dans certains pays. Je pense au cadavre d'un homme qu'on a retrouvé au pied d'une falaise abrupte, et qui, bon, il était mort, n'est-ce pas? Mais il tenait dans une de ses mains de longs morceaux d'herbe de paille qu'il avait arrachés en osant espérer pouvoir se retenir de cette manière. C'était un tableau bouleversant, pathétique, n'est-ce pas? D'essayer de sauver sa vie par quelques brins de paille dans cette chute vertigineuse. Alors là, il faudrait évoquer tous ces textes bibliques qui nous mettent en garde contre ces divers aspects d'une foi complètement ancrée dans toutes sortes de domaines. Je lisais dans ma méditation personnelle d'hier matin, alors là c'est un texte fort, Proverbe 28, verset 26, « Celui qui met sa confiance dans son propre cœur est un insensé. » Celui qui met sa confiance dans son propre cœur est un insensé. Et c'est aussi ce qu'a dit le prophète Jérémie. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme, ne vous confiez pas aux grands, ne mettez pas votre espérance dans des richesses incertaines, ne mettez pas votre confiance dans la chair, ne mettez pas votre confiance ou votre foi dans la foi. Ça, c'est une de ces subtilités, n'est-ce pas, un de ces pièges subtils de la puissance des ténèbres. Le diable ne réussit pas dans des choses grossières à nous éloigner de Dieu, il utilise les choses les plus sublimes, les valeurs les plus sublimes de Dieu, n'est-ce pas? Et dans ces choses merveilleuses, il y a la foi. Et aujourd'hui, dans trop d'églises, on apprend aux croyants à mettre sa foi dans la foi. C'est-à-dire qu'on donne une valeur, une puissance, une capacité à la foi dans sa nature, dans son essence. Ce qu'on appelle une vertu intrinsèque en soi-même. C'est ma foi qui va en quelque sorte obliger Dieu à agir. Ça, c'est une conception totalement fétichiste, superstitieuse, qu'on retrouve dans un certain nombre de religions païennes, qu'on retrouve même dans les Écritures, dans un certain nombre de textes, et c'est bouleversant de voir le succès que cette pseudo-foi, cette foi dans notre foi, occupe dans le monde soi-disant évangélique moderne. Yonggi Cho est un de ces ardents supporters de la foi dans la foi. C'est cette foi qui, en quelque sorte, va produire, va créer la réalité. Si tu as suffisamment de foi, et si tu utilises la juste technique, tu vas créer la réalité. Alors, avec Yonggi Cho, je pense fortement à la bicyclette que je veux obtenir. Elle doit être verte, elle doit avoir tel nombre de vitesses, etc., etc. Je la visualise et ça veut dire que Dieu va la donner. Et le problème, c'est que quand on joue ce genre de jeu, il arrive que ce soit l'ennemi qui réponde. C'est une forme de jugement. Alors ce n'est pas parce que ça marche chez certains qu'il faut l'accepter, parce que sinon vous pouvez accepter d'aller chez les guérisseurs et je ne sais pas chez qui encore, étant donné qu'effectivement, ça peut marcher. Mais c'est un jugement. Et puis il y a toujours des conséquences à court, moyen et long terme quand on procède de cette manière. On est guéri d'un côté, la maladie sort d'un autre. Et avec la foi dans la foi, c'est la même chose. Que de drames dans la vie de croyants qui se nourrissent du matin au soir de toutes sortes de livres qui attribuent à la foi une puissance intrinsèque en elle-même. Que de drames, que de chutes vertigineuses, que de chutes dans l'immoralité. Vous savez, l'ennemi nous paye toujours en monnaie de singe. Il nous fait miroiter des choses fantastiques et en fin de compte, il nous paye en monnaie de singe. La foi dans la foi. Alors je vous laisse, et nous allons terminer là parce que le temps passe trop vite. Je vous laisse deux, trois passages intéressants, extraits de livres que j'ai tellement apprécié moi-même comme, comme image destinée à bien nous faire comprendre la foi. La foi, écrit un commentateur de l'Épître aux Romains, la foi est comme une fenêtre ouverte qui permet à la lumière du soleil d'entrer dans la pièce. Ce n'est pas la fenêtre qui éclaire, mais elle est la voie d'accès, le moyen de pénétration de la lumière. Un autre écrivain écrit ceci, la foi est comme le fait d'avaler. On pourrait dire, avaler vous permet de vivre. Et cela semble juste au premier abord. Mais vous pouvez aussi avaler et mourir. Ce n'est pas avaler qui vous rend capable de vivre. C'est avaler de la nourriture. Vous pouvez avaler du poison et mourir en employant le même mécanisme que celui qui vous permet d'avaler de la nourriture pour vivre. De la même manière, ce n'est pas la foi qui nous sauve, mais c'est la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, puisque la foi réside, la valeur de la foi réside dans son objet. Et c'est là, n'est-ce pas, que d'une manière toute particulière, la foi est don de Dieu. Non seulement dans cet aspect naturel que nous avons évoqué, mais dans cette dimension qui englobe la totalité de la personne et le domaine spirituel. La foi est don de Dieu, puisque Dieu nous donne un point d'appui absolument fondamental pour construire la totalité de notre vie ici-bas, en prévision de l'éternité à venir. Puisque Jésus-Christ est don de Dieu, la foi est don de Dieu par Jésus-Christ. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc important, c'est, je termine par là, d'avoir un point d'appui solide. Dieu nous l'offre de manière parfaite, de manière totalement fiable pour notre vie sur cette terre, pour notre destinée éternelle. Écoutez cette belle parole d'Hudson Taylor. Le Seigneur est toujours fidèle. Les disciples disaient, Seigneur, augmente-nous la foi. Le Seigneur ne les a-t-il pas repris à ce propos? Ce n'est pas une grande foi dont vous avez besoin, leur dit-il, mais de la foi en un grand Dieu. Si même votre foi est petite comme un grain de moutarde, elle suffit pour déplacer une montagne. Nous avons besoin d'une foi qui repose sur un grand Dieu et qui compte qu'il accomplira sa propre parole et fera exactement ce qu'il a promis. Ma foi repose sur un grand Dieu qui me bouleverse plus il se révèle à moi. Dieu solide, Dieu parfaitement fiable, Dieu qui m'aime d'un amour éternel, Dieu immuable, stable dans son comportement, toujours fidèle à lui-même, toujours en harmonie avec ses déclarations, le Dieu qui ne ment point. C'est ce que l'apôtre Paul dira tant et tant de fois. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Combien il va appuyer sur cette vérité. Mais c'est aussi une parole qu'il m'adresse de manière personnelle. La naissance de la foi, c'est ce moment où le texte de Dieu dans les Écritures trouve un écho dans mon cœur, où je réalise subitement que Dieu s'adresse à moi. En quelque sorte, le texte saute des Écritures pour s'appliquer à mon cœur par le travail du Saint-Esprit. Et je pense que chacun d'entre nous, si vous êtes au Seigneur, vous pourriez venir ici et raconter comment, à diverses reprises, le texte biblique que vous aviez lu des dizaines et des dizaines de fois est devenu une réalité vivante. Vous vous êtes rendu compte que vous aviez affaire à un Dieu vivant qui s'adressait à vous de manière personnelle dans votre besoin. Le premier besoin, c'est le salut. Et Dieu veut s'adresser à nous de manière personnelle si nous ne sommes pas encore entrés dans sa maison en Jésus-Christ. Permettez-moi, en terminant, de vous laisser cette petite illustration, parce qu'elle m'a aidé à comprendre cet aspect si beau et si personnel de la naissance de la foi en rapport avec l'amour. Ça n'apparaît pas dans notre langue française. Nous n'avons qu'un mot, à ma connaissance en tout cas, dans la langue française qui, de manière sensible, immédiate, associe étymologiquement la foi et l'amour. C'est le mot « fiancé ». Il y a là un lien très étroit avec la foi. Mais dans d'autres langues, nous le savons et vous le savez, que ce soit en anglais, que ce soit en allemand, les mots « foi » et « amour » ont la même racine. « Glauben »,« lieben », »,« croire », »,« aimer ». Love en anglais, believe, aimer, croire, même origine. Ça donne un relief bouleversant à cette dimension de la foi. Et pour l'expliquer, on raconte que le roi George VI d'Angleterre, lorsqu'il était jeune homme, est tombé amoureux d'une jolie jeune fille écossaise nommée Elizabeth. C'était un jeune homme timide. Il réfléchit longuement, il prit son courage à deux mains et il entreprit, malgré sa timidité, cette approche difficile d'Elizabeth pour lui demander sa main. Et sa tentative fut immédiatement rejetée, ce qui était catastrophique pour un prince aussi timide que lui. Et puis en plus, il bégayait, ce qui n'arrangeait rien. Alors, dans sa détresse, il alla voir sa mère, la reine Marie, pour vider son cœur et pour lui demander conseil. Et la reine Marie l'écouta avec beaucoup de sympathie, lui posa une question avant de répondre. Est-ce que tu aimes réellement Élisabeth ? Tu sais, il y a une quantité de jeunes filles dans tous les royaumes du monde qui rêvent de t'épouser. Est-ce que tu es sûre d'aimer vraiment cette jeune fille Élisabeth ? Mais oui, maman, c'est elle que j'aime, c'est elle que je veux épouser. Et la reine Marie de lui dire, eh bien, écoute, je n'ai qu'un seul conseil à te donner. Il faut que tu ailles la revoir et que tu lui reposes la question, que tu lui demandes à nouveau sa main et son cœur. Alors, c'était une réponse qui ne le satisfaisait pas tellement, mais il ne voyait pas d'autre solution, si bien qu'au bout d'un certain temps, il reprit son courage à deux mains, il alla revoir Elisabeth, lui demanda... et sa main, et il fut de nouveau repoussé. Alors il retourne bouleversé vers la reine Marie et il raconte l'histoire à sa maman. Elle lui montre à nouveau beaucoup de sympathie. Elle évoque à nouveau toutes les courtisanes qui n'attendaient que le moment de pouvoir l'épouser. Elle lui dit, mais écoute, est-ce que tu l'aimes vraiment? Mais oui, tu sais maman, je l'aime. Eh bien écoute, je n'ai qu'une chose à te dire. Retourne et repose-lui la question. Et au bout d'un certain temps, pour la troisième fois, après une longue période de préparation, il alla vers Elisabeth et lui reposa la question. Et elle dit oui. Et elle dit oui de tout son cœur. Et elle a eu l'occasion maintes fois d'expliquer pourquoi. Elle a été bouleversée par le courage de ce jeune homme, par l'humilité de ce jeune homme, par le fait qu'il était prêt à essuyer une série d'échecs successifs et pourtant continuer malgré sa timidité, malgré ses bégaiements, son défaut du langage. Et elle a expliqué en quelque sorte comment, peu à peu, dans cette situation, l'amour qui était dans le cœur du futur roi George VI est entrée dans son propre cœur. Elle a commencé à l'aimer en découvrant progressivement au fil du temps la qualité, la profondeur, la solidité, la fiabilité de l'amour qu'il avait à son égard. Ils se sont mariés et dans la chronique de l'histoire de la royauté en Grande-Bretagne, on dit généralement que ce fut le couple le plus heureux. Élisabeth, c'est la centenaire qui est décédée il y a très peu d'années, vous vous en souvenez, la spécialiste des beaux chapeaux, etc., qui avait 100 et quelques années, n'est-ce pas? C'est elle. Je voulais vous laisser cette histoire, de ne pas l'escamoter, parce que pour moi, elle veut dire beaucoup de choses. Le don de la foi, c'est ça. Dieu nous fait la cour. Il fait la cour parce qu'il nous aime follement. Et il essuie de terribles déconvenues, parfois dans nos refus successifs pendant des années et des années et des années. Notre mépris, notre indifférence. Et il continue parce qu'il veut gagner nos cœurs par la beauté de son caractère et de ses œuvres. Et il exprime cette beauté au plus haut point dans le don de son Fils Jésus-Christ. Et ce que Dieu fait pour la naissance de la foi, mes bien-aimés, il continue à le faire pour la croissance de la foi. Combien de fois Dieu ne nous fait-il pas la cour pour nous montrer que dans telle ou telle situation, il nous aime et qu'il veut nous en orienter dans la bonne direction pour que nous fassions le bon choix. L'amour de Dieu qui se communique à mon cœur. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. La foi qui suscite la foi, puisque même dans l'Ancien Testament, il est question de la foi de Dieu qui suscite la foi.